9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. La ville de Kherson est en train d'être reprise par les soldats ukrainiens. L'armée russe s'est retirée de l'autre côté du fleuve Dniepr. On va voir tout de suite avec Cédric Mas s'il s'agit d'un recul tactique ou d'une lourde défaite. Et puis Didier Deschamps a divulgué cette semaine la sélection de l'équipe de France pour le Qatar. La Coupe du Monde commence dans 8 jours. Fabien Archambault est historien. Il va nous faire The Big Picture, replacer ça dans la longue histoire du football. Et l'on terminera l'émission avec Erwan Manteour qui publie la première méthode de coaching alimentaire et sportif sous contrainte hors environnementale. Parfait pour la COP27.
Europe 1.
Cédric Mas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien militaire et c'est sur Twitter que vous vous êtes révélé un commentateur averti et très avisé de la guerre en Ukraine. Alors le retrait de Kherson par l'armée russe a eu lieu. Comment vous l'expliquez-vous ?
Alors en fait, il s'agit de, pour les Russes, du point de vue des Russes, de retirer leurs forces juste avant qu'ils s'effondrent. Et donc en réalité, c'est le succès de l'offensive stratégique menée depuis le 28 août par les Ukrainiens, dont on a beaucoup parlé, glosé sur la lenteur, la lourdeur des pertes et la difficulté. En réalité, les Russes sont rassemblés sur la tête de pont de Kherson, dans la tête de pont de Kherson, entre 20 et 30 000 hommes, qui étaient parmi les meilleures troupes encore disponibles, bien soutenus par une artillerie pléthorique et très fortifiée. Il y avait au moins 3 lignes de fortifications différentes. Et donc, les Ukrainiens, plutôt que de s'épuiser et de perdre trop d'hommes, ont mené une offensive systémique, c'est-à-dire qu'ils ont visé les points faibles du dispositif russe, jusqu'à l'amener au bord de la rupture. Et juste avant cette rupture, le commandement russe a préféré évacuer, comme il l'avait fait à Kiev, rappelez-vous, fin mars, début avril, en préférant, au moment où tout allait s'effondrer, ils ont préféré ordonner un repli. C'est une manière pour eux de tenter de garder le contrôle d'une situation qui leur échappe de plus en plus.
C'est tenter de garder le contrôle, mais enfin, c'est une défaite terrible, non ?
C'est une défaite politique, puisque je vous rappelle, Kherson est la seule ville capitale de d'oblast qui a été prise par la Russie, qui a été annexée. Songez que ce matin, la Russie a annoncé le transfert de toutes les autorités collaborationnistes, de toute l'administration de collaboration de Kherson, à une petite ville, Genichek, qui est toujours dans l'oblast de Kherson, mais exactement à l'opposé, à la limite avec la Crimée. Il n'y a pas plus loin du front, et on passe d'une ville de presque 300 000 habitants à une ville de 25 000 habitants. Donc vous imaginez, c'est en effet une défaite politique, symbolique et également militaire, parce que ça montre que la stratégie menée par les Ukrainiens de viser le système, l'armée russe comme système en visant ses points faibles, suffit à la faire reculer, et c'est l'objectif des Ukrainiens.
Kherson est une ville encore plus symbolique qu'on le dit, parce qu'elle a été fondée par Catherine II en 1778, après sa victoire sur le khanat de Crimée lors de la guerre russo-turque. Et c'est son favori Potemkin qui avait été chargé de coloniser ce qu'ils appelaient à l'époque la Nouvelle Russie. C'est lui qui a bâti Kherson. Sa dépouille reposait dans la cathédrale de Kherson depuis plus de 2 siècles. Et on dit que les Russes sont partis en emportant ses ossements dans leur retraite. Vous êtes au courant ?
Exactement. Oui, alors non seulement ils ont pris les ossements, mais ils ont pris toutes les statues, tous les monuments qui étaient à la gloire de ces colonisateurs. Mais vous savez, Anvers a été fondé par Napoléon, donc si vous voulez, on peut créer des villes dans les colonies, et c'est pas pour autant que ça nous donne le droit ad vitam aeternam de régir la vie des gens qui sont sur place. Kherson, c'est aussi une ville où, dès les premiers jours, elle a été envahie dans les 48 premières heures de l'invasion. Dès le premier jour, les têtes de colonne russes qui jaillissaient de la Crimée vers Odessa et Mykolaïv se sont saisies du pont d'Antonovski. Donc ça a été une défaite importante, une des grandes défaites ukrainiennes des 48 premières heures de l'invasion. Mais c'est aussi une des villes où il y a eu beaucoup de manifestations avec Mélitopol et quelques autres. C'est-à-dire que la population a très tôt fait montre de sa volonté de ne pas être soumise à la Russie. Donc c'est aussi une défaite politique pour Vladimir Poutine, qui s'est toujours imaginé que la Russie serait plus séduisante que l'Europe, que les valeurs occidentales. Et bien là, il se trompe lourdement. Et quelque part, les scènes de liesse. Et de fait, toute la nuit, il y a eu la fête dans Kherson, alors même qu'il n'y a plus d'électricité et qu'il va recommencer à geler à partir de la semaine prochaine. Je vous le donne en exclusivité, la météo est très mauvaise pour l'Ukraine, mais ça va être aussi très difficile pour les mobilisés russes qui sont jetés sans équipement sur le front, notamment dans le nord-est, c'est-à-dire au niveau du Donbass et plus au nord encore.
Mais justement, elle était tombée très rapidement, la ville de Kherson, au début de l'invasion, et dans des conditions qu'on a dit mystérieuses. On a parlé de trahison, de sabotage.
Alors, il y a en effet des éléments sur lesquels une enquête est en cours, puisque les mines qui avaient été posées sur les routes qui jaillissaient de l'isthme de Crimée, hein, qui permettaient aux forces de Crimée de déboucher vers le nord, ont été déminées, hein, contrairement à d'autres positions sur le nord. Mais il y a eu d'une part la surprise, il y a peut-être des collaborations locales, mais songez que l'invasion russe de 2014-2015 avait déjà bénéficié de collaborations locales. Vous avez un certain nombre d'autorités ukrainiennes qui ont fait le choix de la Russie et qui continuent encore à faire partie des autorités de collaboration dans les zones encore occupées. Il y en a beaucoup, n'oublions pas. Mais il faut aussi garder à l'esprit un autre point qui est que l'armée russe qui a attaqué depuis la Crimée n'a pas été épuisée par les 3 semaines d'exercice que les armées qui étaient notamment biélorusses ont dû mener pour tromper toute la communauté internationale qui s'inquiétait de la constitution. Et quand les Russes nous disaient mais ce sont juste des exercices, ils ont dû les faire effectivement. Et donc lorsqu'ils ont attaqué le 24 février, ils étaient un peu plus fatigués, on l'a vu, en tout cas un peu moins en état qu'en Crimée où ils étaient vraiment prêts à jaillir et ils ont bondi de 100 km en une journée quasiment. Hein, donc ça, c'est très important. Et en effet, pour le reste, sur les circonstances exactes, il y a eu des arrestations de responsables de sécurité ukrainiens et une enquête est toujours en cours. Mais là, ça sera au travail de l'historien, une fois que les armes se seront tues, de dire le fin mot de l'histoire.
Et les 300 000 soldats recrutés par l'armée russe grâce à la mobilisation partielle, où sont-ils? À quoi servent-ils?
Alors, déjà, rien que sur le chiffre, on ne sait pas. Officiellement, on est à moins de 300 000. En réalité, on sera à beaucoup plus, selon les statistiques et selon des éléments extérieurs. Où ils sont? Une partie a été jetée immédiatement sur le front, y compris à Kherson. À Kherson, il y a eu les premiers mobilisés tués 15 jours après leur mobilisation. Vous imaginez, vous êtes raflé dans une rue ou convoqué à un centre de recrutement et 15 jours après, vous êtes mort sur le front. Donc, c'est à peu près ce qui s'est passé entre fin septembre et début octobre. Donc une partie a été jetée immédiatement sur le front pour colmater, pour renforcer, redonner un peu de volume aux unités qui étaient décimées sur le front par les tirs et l'action des combats de haute intensité ukrainiens. Une partie est en train de s'entraîner encore et va être engagée progressivement. Et donc je pense que le commandement russe compte sur cette deuxième partie, cette deuxième masse, mieux équipée, un peu plus entraînée, peut-être un peu mieux encadrée, pour tenir tout l'hiver et nous épuiser et permettre ensuite de forcer l'Ukraine à s'asseoir à la table de négociation dans une situation que les Ukrainiens refusent pour l'instant. Parce que c'est le vrai objectif aujourd'hui de la Russie. La Russie ne peut plus gagner militairement la guerre, elle ne peut le gagner que sur le tapis vert, comme on dit, c'est-à-dire à la table des négociations, en jouant notamment sur nos propres faiblesses.
On fait une pause, Cédric Masse, on se retrouve tout de suite après.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Retrait de la ville de Kherson par l'armée russe avec Cédric Masse. Vladimir Poutine avait envoyé des troupes en Biélorussie de l'autre côté de l'Ukraine pour obliger Kiev à dégarnir le front du côté de Kherson. Une tactique qui n'a pas l'air d'avoir fonctionné.
Alors là aussi, je resterai plus prudent, on n'a pas tous les éléments. Les Ukrainiens sont obligés de maintenir des effectifs conséquents pour protéger leur capitale, qui est à portée d'une attaque surprise depuis le Bélarus. Après, on est aussi... c'est une menace qui existe encore aujourd'hui, même si la menace de l'armée du Bélarus, hein, du régime de Loukachenko, se réduit encore. Mais il faut être très prudent pour savoir si elle a fonctionné ou pas, parce que en effet, il y a une masse de manœuvre ukrainienne qui doit encore être engagé, que les Ukrainiens ont pu reconstituer après leurs offensives de fin août et début septembre. Et cette masse de manœuvre n'est pas encore engagée. Donc peut-être qu'elle a été en partie bloquée au nord. On ne le sait pas encore. Voilà, je reste très prudent là-dessus.
Les Ukrainiens manquent de munitions, de missiles, d'obus. Est-ce qu'ils peuvent franchir le fleuve Dniepr pour poursuivre les Russes?
Alors... oui, ils le peuvent. Après, est-ce que cette tête de pont qu'ils pourraient constituer ne sera pas attaquée? En tout cas, c'est ce que craignent les Russes. Ça, c'est sûr. Ils craignent puisqu'ils viennent d'annoncer ce matin également l'évacuation des populations et des administrations de la collaboration, hein, de leur zone occupée, au sud du Dnipr, hein, notamment autour de Novakakovka et Kakovka. Donc, ça veut dire qu'ils craignent un passage de vive force. Après, est-ce que les Ukrainiens y ont intérêt? Ça, c'est un autre sujet, parce qu'il y a d'autres perspectives. Et c'est là où vous voyez, Frédéric, si je peux me permettre, le changement de paradigme de ce conflit depuis cet été, c'est que désormais, ce sont les Ukrainiens qui ont l'initiative, c'est eux qui choisissent où ils vont attaquer, et les Russes sont dans l'attente. Alors que jusqu'à l'été, jusqu'au mois de juin, eh bien, c'était les Russes qui choisissaient où ils attaquaient, à Bakhmout, au Donetsk, à Izium, ou ailleurs. Donc, c'est eux qui choisissaient où ils attaquaient, c'est eux qui avaient l'initiative, ils ont perdu l'initiative. Et un camp qui n'a plus l'initiative, c'est un petit peu comme une équipe qui n'aurait plus le ballon au foot ou au rugby, elle ne peut plus gagner, elle ne peut plus marquer.
Alors Kiev réclame des blindés, des missiles, des avions. Si l'Occident les lui donne, les Ukrainiens risquent de vouloir reprendre la Crimée qui a été annexée à la Russie en 2014. Kherson, si on regarde une carte, c'est la porte vers la Crimée.
Exactement, mais de toute façon, les Ukrainiens annonce qu'ils entendent reprendre la Crimée. La Crimée a été annexée, mais Kherson aussi a été annexée il y a quelques semaines. Le Donbass, toute la partie du Donbass occupée depuis 2014-2015 et celle envahie par la suite ont aussi été annexées. Donc on est d'ores et déjà, Kherson c'est déjà une terre russe si vous vous placez du point de vue des Russes. Mais cette annexion de la Crimée en 2014 n'a jamais été reconnue par le droit international et les Ukrainiens souhaitent reprendre la Crimée. Est-ce qu'ils le peuvent? Sans notre soutien et sans les fournitures et livraisons d'armes notre soutien, ils ne le pourront pas vraisemblablement. En revanche, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'Ukraine a mobilisé des forces dès le début de l'invasion. Elle dispose d'un volant de troupes motivées, d'hommes motivés, mais qui manquent de matériel, notamment de matériel lourd. Et c'est en ce sens que nos fournitures de matériel et d'armes ne doivent surtout pas ni se ralentir, ni encore moins cesser. Parce que sinon, ça serait ouvrir la porte pour contraindre l'Ukraine à négocier et négocier avec quelqu'un qui les a envahis. Regardez ce qui s'est passé à Kherson. Ils ont tout détruit. Ils ont déjà tout emporté. Les Russes ont tout emporté. Et tout ce qu'ils ne pouvaient pas emporter, ils l'ont détruit. À l'heure où je vous parle, les premières évaluations montrent qu'il n'y a plus un réseau, plus un câble d'électrique relié à quoi que ce soit. Ils ont vraiment tout détruit. Et détruire le réseau électrique, détruire le réseau énergétique quand vous avez des populations que vous prétendez être russes et que vous abandonnez à un pseudo-ennemi, même du point de vue de la propagande russe, ça ne colle pas. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment rendu la vie la plus difficile possible alors que l'hiver arrive et que le gel va commencer à se répandre sur tout le pays.
Mais si les Ukrainiens s'aventurent en Crimée, on craint que Poutine soit tenté d'utiliser l'arme nucléaire pour sauvegarder ce qu'il considère, vous l'avez dit, comme un territoire russe. Est-ce que vous pensez que l'Occident va les aider ?
Alors, moi, je l'espère en tout cas, parce que ce serait le sens des valeurs et du droit. Vladimir Poutine fait la guerre à l'Ukraine parce qu'il fait la guerre à l'Occident. Regardez, lisez attentivement ses mots, ses propres mots. Ce qu'il combat en Ukraine, c'est le risque de voir les valeurs que nous incarnons se répandre en Russie, et ce qu'il considère comme la pire des décadences ou autre. Donc déjà, il nous fait déjà la guerre, ça c'est mon premier point. Il fait déjà la guerre à l'Occident, à l'OTAN, à l'Union Européenne, en envahissant l'Ukraine, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que envahir la Crimée, quelle serait la différence juridiquement du point de vue russe avec envahir ou reprendre Kherson, qui est tout autant une terre russe que la Crimée. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Et enfin, la menace nucléaire, elle est agitée quasiment depuis le mois de mars, depuis le début du conflit, en réalité depuis que les choses commencent à tourner vraiment mal pour les armes russes. Et cette menace, pour l'instant, les spécialistes dont je ne fais pas partie n'y croient absolument pas. D'ailleurs, la Chine a encore récemment déclaré qu'elle s'opposait à toute utilisation de l'arme nucléaire. Donc on voit mal Vladimir Poutine, qui maîtrise ces données-là, utiliser l'arme nucléaire en Ukraine contre un pays qui n'a pas d'arme nucléaire, ça serait vraiment la porte à tellement de choses, ça serait vraiment un nouveau monde, ça serait faire rentrer le 21e siècle qui commence dans un monde qui serait vraiment pas enviable et un futur qui ne serait pas souhaitable, y compris pour nous-mêmes et nos propres enfants.
Dernière question, Cédric Mas, d'après le renseignement américain, la guerre aurait déjà tué 100 000 soldats russes et pareil du côté ukrainien. Que pensez-vous de ces chiffres ?
Eh bien, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Tout ce que l'on sait, c'est que les pertes sont lourdes des deux côtés. Je compte travailler un petit peu là-dessus dans les prochains jours, comme vous le disiez. Les pertes sont très lourdes des deux côtés. C'est le principe, c'est l'irruption du conflit d'une guerre de haute intensité. Nous fêtions hier l'armistice du 11 novembre. Nous avons connu nous-mêmes cette guerre de haute intensité. Songez que de tous les pays européens d'Europe de l'Ouest, la France a été par exemple le pays qui a subi le plus de pertes. 4,3% de la population a été tuée en France. Ça fait moins que le nombre d'Allemands morts, mais plus en pourcentage. Donc, eh bien, voilà, c'est malheureusement la réalité du conflit de haute intensité déclenché par la dictature et par le régime de Poutine et son ambition et son ego démesuré, c'est ça, c'est une accumulation de souffrances et de drames des deux côtés de la ligne de front.
Merci Cédric Mas. On fait une pause, on se retrouve tout de suite après. On va parler de la Coupe du Monde de football.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Fabien Archambault.
Bonjour.
Vous enseignez l'histoire contemporaine à la Sorbonne et vous publiez Coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs chez Flammarion. Le football, d'après vous, nous plonge au cœur de l'histoire mondiale. C'est ce qui explique son immense popularité. Alors justement, la Coupe du Monde commence dimanche prochain au Qatar. C'est la première organisée par un pays arabe. Certains trouvent ça très exotique, alors qu'il y a des footballeurs d'origine arabe dans les clubs européens depuis toujours. Avant Benzema, en France, il y avait Zidane. Avant Zidane, il y avait Rachid Mekloufli qui jouait à Saint-Etienne et dans l'équipe de France.
Il faut replacer ça dans des stratégies d'expansion du football de la FIFA. La FIFA, en fait, depuis que João Havelange, le Brésilien, a été élu à sa tête en 1974, porte un projet de conquête de nouveaux marchés. C'est-à-dire que c'est le premier sport mondial, le football, mais il faut le rester. Donc ça a été en 1994 l'Amérique du Nord avec la Coupe du Monde aux États-Unis. En 2002, au Japon, Corée du Sud, donc l'Asie. En 2010, l'Afrique du Sud, donc l'Afrique noire. Et à un moment donné, il fallait un pays musulman ou un pays arabe, enfin le Moyen-Orient. Et donc là, bah, il n'y avait pas 36 solutions possibles. C'est-à-dire qu'ils auraient pu penser à l'Iran, qui est un grand pays de football, mais c'était très compliqué géopolitiquement. Il y avait l'Égypte, le Liban, le Maroc, mais là, il y avait des problèmes de construction d'infrastructures de stades. Est-ce que c'était des pays qui pouvaient construire les infrastructures aux normes internationales que demande la FIFA? Et donc, l'habileté du Qatar, ça a été de se proposer en disant, nous, on a les moyens et on peut vous organiser une Coupe du Monde au Moyen-Orient. Et c'est ce qui va se passer, mais ça s'inscrit dans la longue durée. Et ensuite, il y en aura d'autres. Il y aura la Chine un jour, il y aura l'Inde à un autre moment. Parce que l'objectif de la FIFA, c'est toujours de diffuser son sport le plus possible dans des espaces qui, jusqu'ici, n'étaient pas à l'honneur.
Mais la Coupe du Monde de 1930 en Uruguay, que vous racontez également dans votre livre, ça aussi c'était exotique à l'époque. D'ailleurs, la plupart des équipes européennes, à part la France, n'avaient même pas fait le déplacement.
Oui, oui, tout à fait. Là, on a un peu en fait, le même... procéder, enfin la même dynamique géopolitique d'un petit pays qui était l'Uruguay pour s'affirmer sur la scène internationale. Donc il y avait l'idée pour la FIFA d'organiser une Coupe du Monde, enfin en tout cas un championnat du monde qui ne devait pas forcément prendre la forme d'une Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque en Europe déjà une compétition internationale qu'on appelait la Coupe internationale qui s'organisait sur plusieurs années par match aller-retour et qui concernait l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, en gros des pays qui étaient déjà passés au professionnalisme. Et les Européens auraient voulu continuer de cette manière-là puisque pour eux, le football, c'était d'abord une affaire européenne. Finalement, l'Uruguay arrive à convaincre que le format d'une compétition qui soit ramassée en 15 jours sur le modèle des Jeux Olympiques, donc unité de temps, unité de lieu, était la formule qui était la plus idoine pour avoir une compétition spectaculaire. Et donc, à partir de là, l'Uruguay obtient l'organisation de cette première Coupe du Monde et les Européens, forcément, ne se déplacent pas. C'est-à-dire les Européens, les grands championnats européens, c'est-à-dire l'Angleterre. Et donc, l'Uruguay était prêt à faire un pont d'or à la Fédération anglaise pour qu'elle se déplace. Elle n'a pas voulu. Même chose pour l'Autriche, la Hongrie, l'Italie. Et en fait, viennent seulement des équipes de second ordre. Alors, il y a la Belgique. Alors, la Belgique, ça s'explique parce que un des dirigeants de la FIFA, qui est l'ambassadeur d'Uruguay en Belgique et aux Pays-Bas, a de bonnes relations avec le roi des Belges. Donc, il arrive à le convaincre qu'il faut envoyer son équipe. Il y a Jules Rimet, qui est président de la FIFA, qui est français, donc qui supplie les clubs français de libérer les internationaux pour qu'ils aillent en Uruguay. Et ensuite, il y a deux petits pays, footballistiquement parlant, mais pas seulement, sont la Roumanie et la Yougoslavie. Et eux, c'est plutôt c'est des États neufs qui sont nés de la décomposition de l'Empire d'Autriche-Hongrie après la Première Guerre mondiale. Et donc, pour eux, il s'agit d'exister sur la scène internationale. Donc, en fait, on se retrouve avec quatre équipes européennes qui ne sont vraiment pas les meilleures. Les Sud-Américains sont très déçus parce que ce qu'ils voulaient, c'était se confronter aux meilleures équipes européennes pour prouver que justement ils pouvaient les battre.
Mais justement, Fabien Archambault, pourquoi est-ce que l'Amérique du Sud a-t-elle aimé à ce point le football, au point rapidement de rivaliser avec les Européens et même de les dominer nettement, hein, comme ce sera le cas du Brésil et de l'Argentine pendant la deuxième moitié du XXe siècle?
Bah ça, enfin, alors c'est quelque chose qu'on a oublié, hein, c'est que l'Empire britannique, il y avait un aspect d'empire formel, c'est-à-dire des possessions militaires, on va dire, mais il y avait aussi tout un empire informel qui concernait toute l'Amérique latine, c'est-à-dire qu'en gros, les Anglais étaient chez eux en Amérique latine. C'est eux qui fournissaient les capitaux pour moderniser et industrialiser les pays, et en échange, c'était des ingénieurs anglais qui installaient les chemins de fer, qui mettaient sur place le système bancaire, qui géraient les mines avec les ingénieurs, etc. Donc en fait, la zone d'Amérique du Sud, enfin les élites d'Amérique du Sud étaient tournées vers l'Angleterre. Leurs enfants allaient étudier en Angleterre. Donc ils ont appris le football dans les écoles anglaises. Ils étaient au contact d'Anglais, donc de toute cette classe moyenne anglaise liée à la seconde industrialisation qui était présente. Et ce qui s'est passé, c'est après la Première Guerre mondiale, il y a tout un mouvement de redéfinition des identités nationales en Amérique du Sud, parce qu'on a vu pendant la Première Guerre mondiale que les puissances européennes, qui jusqu'ici étaient considérées comme l'image même de la civilisation, s'étaient effondrées dans une boucherie sans nom. Et donc à ce moment-là, il faut refonder ces pays-là. Et on le fait en partie avec la culture dont on dispose, donc dans laquelle figure le football. Et il s'agira de créer un football qui soit différent, un football créole, où on jouera différemment au football en Amérique du Sud. Et du coup, on sera capable de montrer qu'on peut battre non pas l'ancien colonisateur, mais en tout cas l'ancienne puissance dominante de la zone.
Celui qui va le mieux symboliser ça, c'est Pelé. On fait une pause, Fabien Archambault, et on y revient tout de suite à Pelé et à l'exotisme du football sud-américain.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes toujours avec l'historien Fabien Archambault qui publie « Coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs » chez Flammarion. Pelé, qui fait son apparition en 1958 à 17 ans, le plus jeune joueur de l'équipe du Brésil qui remporte la Coupe du Monde de football. Il est encore là en 62 et en 70, les deux autres Coupes du Monde remportées par le Brésil. C'est à partir du triomphe de Pelé au Mexique devant 100 millions de téléspectateurs, devient la première star mondiale du football, que s'inscrit dans les esprits que le roi du football est noir, forcément noir.
C'est pas une nouveauté, enfin, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu un meilleur joueur du monde qui était noir. Donc c'est par exemple l'équipe d'Uruguay qui gagne les Jeux Olympiques en 1924 et en 1928, donc en 24 à Paris, en 28 à Amsterdam, où il y avait son attaquant qui était Jorge Leandro Andrade, qu'on appelait la merveille noire, donc qui suscitait émerveillement, curiosité, c'est-à-dire des capacités athlétiques et techniques qu'on ne connaissait pas jusque-là. En 1938, sur la Coupe du Monde qui est organisée en France, il y a l'attaquant brésilien, lui aussi qui est noir, Leonidas. Donc tout ça, en fait, préparait le terrain à l'éclosion de cette vedette planétaire. Donc on se souvient surtout de Pelé parce que...
Parce qu'il y a la télé.
Il y a la télé. Il y a aussi tout un moment culturel en France, par exemple le titre de roi du football, c'est Paris Match qui le décerne à Pelé après la Coupe du Monde 1958. C'est la bossa nova brésilienne, c'est le cinéma nuovo brésilien qui triomphe à Cannes. Et donc Pelé incarne un exotisme, et un exotisme qui est efficace, un exotisme qui gagne. Et ensuite, c'est ce que vous avez dit, cette exposition télévisuelle à la Coupe du Monde 1970 fait que ça devient l'idole du tiers-monde. C'est-à-dire, par exemple, Pelé est immensément populaire dans toute l'Afrique noire. C'est l'équivalent de Mohamed Ali. C'est la preuve que, après les décolonisations, vient une nouvelle ère où les athlètes noirs seront enfin dominants.
Et à partir de là, en France, il y aura toujours des stars noires du football. Salif Keïta ou Marius Trésor, quand j'étais petit, ont précédé Liliane Thuram, Paul Pogba ou Kylian Mbappé.
C'est-à-dire que les grands clubs européens cherchent le nouveau Pelé. On se dit qu'il y en aura d'autres. Et alors surtout, en plus, les anciennes puissances coloniales dans la zone africaine, c'est-à-dire l'Angleterre et la France, se disent qu'eux aussi, ils ont des filières de recrutement dans les pays qui étaient anciennement sous leur domination. Les Français se disent, nous on va essayer d'aller voir dans nos anciennes colonies si on ne peut pas dégoter les futures stars du ballon rond.
Comment expliquez-vous, Fabien Archambault, que la France qui n'a guère fait d'étincelles à l'international, on va le dire, comme ça tout au long du XXe siècle, hormis une place de troisième dans cette fameuse Coupe du Monde en Suède en 1958 et un titre de championne d'Europe en 1982. Comment expliquez-vous que la France se réveille enfin en 1998 en remportant la Coupe du Monde une première fois? Alors bon, on est chez nous à ce moment-là, ça aide. Elle a failli quand même remettre ça 8 ans plus tard, en 2006. Et puis elle a remporté une deuxième Coupe du Monde en 2018. C'est la France championne du monde qui va défendre son titre au Qatar la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour opérer une telle métamorphose?
Alors, moi, je dirais qu'il y a des raisons de moyen terme et des raisons plus conjoncturelles. Alors, de moyen terme, c'est ce que vous avez décrit, c'est que le football français est, à l'échelle européenne, un nain footballistique, notamment pour tout ce qui concerne le football de club. Alors, ça tient au fait qu'il y a très peu d'investissements industriels. Enfin, il y en a, mais qui sont pas du tout du niveau de ce qui se passe en Espagne, en Italie, en Angleterre. Alors ça tient en partie, je pense, au fait que justement l'équipe de France n'a jamais gagné une grande compétition. Donc en gros, c'est un cercle vicieux qui s'installe. C'est-à-dire qu'en gros, les élites économiques, les élites politiques ne voient pas dans le football un moyen de magnifier la nation, d'assurer le prestige national. Alors ce qui se passe, c'est au début des années 70, Philippe Séguin, qui est au Conseil d'État et qui met en place, en gros, un système de formation. Enfin, c'est ce qui donnera les sports-études et qui, en gros, permet de suppléer des clubs qui sont déficients de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en gros, le système scolaire français va aider à repérer, à former le plus de bons joueurs possible, d'où pourrait émerger une élite. L'élément plus conjoncturel, c'est l'arrêt Bosman en 1996, donc qui a un peu anticipé avec la chute de l'Olympique de Marseille pour corruption, où en gros les meilleurs joueurs français sont achetés par, à l'époque, les clubs les plus riches, qui sont les clubs italiens, où ils se confrontent au, voilà, c'est la Serie A italienne dans les années 90, est le meilleur championnat du monde, et ils progressent tout simplement. Donc de ce point de vue-là, avant le quart de finale contre l'Italie en 1998 à la Coupe du Monde, le Corriere dello Sport, qui est un des trois quotidiens sportifs italiens, avait titré en une « Nous avons créé des monstres ». C'est-à-dire qu'il s'était rendu compte que là, par exemple, les défenseurs, Thuram, De Sailly, Blanc, qui avait joué à Naples, c'était les meilleurs du monde, et ils l'ont prouvé avec un style de jeu qui était très italien, finalement, c'est-à-dire des équipes très disciplinées, qui défendent bien, qui savent attaquer au bon moment. Et c'est un peu ce qui s'est reproduit en 2018. Deschamps est passé à la Juventus. C'est le meilleur entraîneur italien du moment, Didier Deschamps.
Et c'est drôle parce que c'est seulement pour l'équipe de France, ça. Parce qu'en club, notre palmarès est toujours aussi famélique, dites-vous. Deux titres européens seulement. On est loin derrière l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande. On est loin derrière le Portugal ou même la Belgique. On est au niveau de la Roumanie et de l'Écosse.
Oui, tout à fait. Disons que il faut de l'argent pour réussir dans le football de haut niveau, mais aussi il faut une tradition d'excellence. C'est que c'est très compliqué de gagner une Coupe d'Europe. Et finalement, en France, ça fait une dizaine d'années seulement qu'il y a un club qui peut rivaliser financièrement avec les autres grandes puissances footballistiques du continent. Et ça prend du temps. C'est-à-dire que même les plus grands clubs européens, prenons l'Inter de Milan, qui avait investi avec le pétrolier Moratti dans les années 90 des milliards de lire, il a attendu 20 ans avant de gagner la Ligue des Champions. Donc ça arrivera peut-être en France, mais après, ce qui compte, c'est que au-delà du Paris Saint-Germain, il y a des clubs qui sont des clubs moyens européens sans en plus compétences particulières pour briller au niveau international.
Merci Fabien Archambault. Coup de sifflet, une histoire du monde en 11 matchs, c'est paru chez Flammarion. Et la suite, c'est à partir de la semaine prochaine. Ça se passe au Qatar avec une nouvelle Coupe du Monde.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
La COP27 a lieu en ce moment même en Égypte, à Sharm el-Sheikh, où chefs d'État, ministres, représentants de la société civile tentent d'unir leurs efforts pour lutter contre les dérèglements climatiques. Erwan Manteour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous aussi un activiste du climat, ancien sportif de haut niveau. Vous avez déjà écrit plusieurs livres sur le sujet. Aujourd'hui, vous publiez Because We Care, aux éditions En Exergue, la première méthode de coaching alimentaire et sportif sous contrainte environnementale. Alors, vous ne prétendez pas changer le monde. Vous n'essayez pas de culpabiliser qui que ce soit. Ce n'est pas une méthode de dépassement de soi. Vous ne cherchez pas à faire de chacun d'entre nous des athlètes. Vous nous expliquez simplement comment faire le ménage rapidement dans notre propre corps.
Oui, c'est-à-dire que c'est une période un petit peu mouvementée à bien des égards, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue environnemental. Les gens se posent beaucoup de questions. Il y a un climat assez anxiogène. Et il s'agit de reprendre le contrôle et de reprendre le contrôle avec les fondamentaux. Parce qu'il faut commencer par se rendre compte que notre alimentation est la plus changée en 70 ans qu'en plusieurs millions d'années. C'est quelque chose qui est arrivé très tardivement, l'alimentation industrielle qui a des conséquences dramatiques sur la santé. L'ONU nous disait qu'en 2030, il y aura à peu près 35% de la population qui sera obèse avec toutes les maladies inflammatoires, cancer, obésité, diabète qui en découlent. Les gens sont de plus en plus en mauvaise santé alors qu'il y a des gestes simples qui sont bons pour le corps, qui sont bons pour la tête et qui sont bons pour l'environnement. Donc il s'agissait de les mettre, de les réunir et de faire un livre qui permette qu'il soit un mode d'emploi pour déployer des solutions pragmatiques autour de chaque individu pour aller mieux dans sa vie, dans sa tête et protéger la planète. Je prends soin de moi pour prendre soin de cette planète. L'ONU a récemment mis en évidence une étude où il apparaissait que le levier individuel sur le réchauffement climatique était d'environ 25%. Et bien ces 25% sont dans ce livre.
Mais vous oubliez que ce que l'on va acheter dans les supermarchés, les fameux produits industriels transformés, ils sont bons aussi, c'est pour ça qu'on les achète.
Alors oui, alors ils sont bons. Je vais vous dire un truc qui va peut-être un peu vous choquer. Il y a quelques années, enfin, j'ai fait plusieurs reportages à l'époque en télé chez Stéphane Bern et puis chez Daphné Burki. J'avais été voir Serge Ahmed, qui est directeur de recherche au CNRS de Bordeaux. Il s'était amusé à droguer à la cocaïne des rats, une centaine de rats. Et ces rats, ils avaient un petit beeper comme ça sur lequel ils beepaient et grâce à un cathéter, ils recevaient une dose de cocaïne. Le jour où on leur rentrait de l'eau sucrée, ils abandonnaient la cocaïne. Le sucre stimule les trois circuits de la dépendance, notamment le circuit dopaminergique. Et dans les années 70, les Américains se sont amusés, avec beaucoup de cynisme, à rentrer dans les laboratoires pour prendre le contrôle de nos palais, pour prendre le contrôle de nos cerveaux, pour prendre le contrôle de nos placards. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher un mec qui s'appelle Howard Moscovitz, qui est une légende dans le milieu de l'agroalimentaire et de la grande distribution aux États-Unis. Il a découvert ce qu'on appelle le point de félicité, the bliss point. The bliss point, c'est le flash que peut avoir un toxicomane quand il prend des drogues dures, et il l'a mis dans tout ce qui est transformé. C'est une adjonction, une association de sucre, de gras et de sel. Et si vous regardez n'importe quel produit préparé, que ce soit des chips, que ce soit des carottes râpées, que ce soit un biscuit, vous aurez toujours du sel, du sucre et de gras pour déclencher le bliss point et vous rendre accro. Il y a quelques années, on avait fait avec 60 millions de consommateurs une étude en proposant différents produits qui viennent théoriquement du terroir mais qu'on a dénaturé et qu'on a industrialisé. Je vais prendre l'exemple du cordon bleu. Un cordon bleu industriel et à côté de ça, à l'aveugle, on leur mettait quelque chose qui était organique, qui était sain, qui était fait maison. Tous les enfants allaient vers l'industriel, toujours pour les mêmes raisons, à cause du sel, du gras et du sucre, le bliss point, qui prend le contrôle, on est accro.
Dans votre livre, évidemment, il y a des recettes, il y en a même beaucoup. Vous pouvez nous donner des exemples?
C'est surtout Christophe Berg qui est un maître dans la cuisine végane. Moi, il y a des choses qu'il a fait dedans. Par exemple, le pas de thaï végane qu'il fait dedans. Je l'ai fait à la maison, je ne peux plus m'arrêter de le manger. Les petites bouchées qu'on mange en apéro, qui sont des espèces de makis avec vraiment une subtilité, un équilibre du goût. On en raffole, on peut en manger et en plus, on ne grossit pas. Ce qui est formidable avec ça, c'est qu'on peut manger à volonté dans des quantités qu'on n'est pas habitué à manger et qui n'auront aucune incidence sur notre poids, puisque notre corps va naturellement, lorsqu'on lui donne ce qu'on appelle un fond nutritionnel, c'est-à-dire quand on lui donne le matériel pour assurer ses fonctions vitales, cognitives et immunitaires, il se débarrasse de ce qui l'encombre si on a une activité physique avec.
Alors l'activité physique, évidemment, c'est la deuxième partie du livre. C'est une méthode de coaching sportif. Vous êtes, je le rappelle, un ancien cycliste de haute compétition. Alors qu'est-ce que le sport vient faire là-dedans ?
Vous trouvez normal de vous brosser les dents tous les matins, de prendre une douche, de vous laver, mais vous ne trouvez pas normal de faire du sport. Or, faire du sport, c'est sortir les poubelles. Et il y a deux compartiments dans le sport. Il y a l'activité cardiovasculaire et il y a la musculation. Alors la musculation, ça fait toujours très peur.
Oui, mais ça paraît même un peu ringard maintenant.
Voilà, même ringard. Eh bien, je vais vous expliquer. Le cardio, ça a une vertu très importante. Quand c'est un cardio, ce qu'on appelle en capacité aérobie, c'est lorsqu'on est en équilibre d'oxygène, qui dépasse de 25 à 40 minutes selon les individus, on va avoir ce que le grand public appelle le second souffle, qui est en réalité l'augmentation du volume plasmatique, le volume qu'occupe le plasma dans le sang. Lorsque vous augmentez le volume plasmatique, vous sortez toutes les poubelles de ce qu'il y a dans le sang. Et vos autres usines de traitement des déchets, peau, poumons, foie, rein, intestin, travaillent grâce à ça et peuvent servir, sortir les poubelles. C'est des cordes de Monsieur Propre qui font le boulot.
Et tout ça, c'est bon pour la planète, vous allez me dire.
Ça, c'est pas bon pour la planète, mais c'est bon pour nous. Et quand c'est bon pour nous, ça va devenir bon pour la planète. Vous allez comprendre pourquoi après. Et ensuite, la musculation, il faut savoir que 25 ans, c'est notre âge d'or hormonal. À partir de 25 ans, vous perdez 0,5% de sécrétion tous les ans. Puis vers 40, 45 ans, vous passez à 1%. Et là, ça devient, au bout de quelques années, la sarcopénie, c'est la dégénérescence. Qu'est-ce qui ralentit le processus de vieillissement ? C'est d'exercer des contraintes sur le corps pour engendrer des réponses hormonales. C'est-à-dire que si vous faites des exercices qui sont a priori désagréables, vous n'allez pas les aimer au début, ils vont vous faire trembler, ils vont vous faire sécréter des catécholamines, adrénaline, noradrénaline. Alors ça, il faut que vous vous dites, mesdames, l'adrénaline, c'est votre copine. Parce que chaque fois que vous tremblez, il faut savoir que sur chaque adipocyte, sur chaque cellule graisseuse à la surface, il y a un petit verrou. La clé de ce verrou, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. Et le corps, qui est très intelligent, quand on le fait chier, parce que lui, c'est un gros feignant, comme vous et moi, il se dit « Mais qu'est-ce qu'on me fait là ? Je suis plein de catécholamines, je tremble de partout, je vais faire en sorte que ça devienne plus facile. Je vais appeler l'hypophyse et je vais sécréter de l'hormone de croissance, je vais appeler les endocrines et je vais sécréter de la testostérone. » Et là, non seulement on ralentit le processus de vieillissement, mais en plus, on régénère le corps. Donc, on va se protéger de toutes les cervicalgies, les lombalgies. On va régler les tendinites parce qu'il y a plein de fibroblastes qui arrivent partout. Mais les femmes, elles se disent « Oh là là, moi, je n'ai pas envie de ressembler à une altérophile bulgare. » Mais ce qu'il faut qu'elle...
Les hommes non plus.
Hein. Oui, mais avant de le faire, moi, ça fait 20 ans que je fais du sport. Avant de gagner du muscle, ça prend des années. Ce qu'il faut bien comprendre, lorsqu'une femme me dit ça, « Je n'ai pas envie de ressembler à une altérophile bulgare et de prendre du muscle. » J'ai envie de lui dire, c'est comme si vous me disiez « Je ne vais pas me mettre à conduire ma voiture parce que j'ai peur de devenir pilote de Formule 1. » Les femmes, elles sécrètent des œstradiols. Ça a été conçu, leur chimie, leur physiologie a été conçue dans la préhistoire où elles devaient être en mesure de traverser une période de famine sans remettre l'existence éventuelle d'un fœtus qu'elles auraient dans le ventre. À ce titre, elles sursécrètent des œstradiols qui vont leur faire prendre du gras et qui inhibent l'anabolisme. C'est-à-dire que leur corps, lorsqu'elles se privent de nourriture, va les forcer à prendre du gras pour protéger le bébé et vont les empêcher de prendre du muscle. Donc il ne faut surtout pas faire de régime. Il faut augmenter son métabolisme de base en faisant des exercices. Et avant de prendre du muscle, il va se passer des mois, quand on voit des nanas sur les réseaux sociaux qui sont gaulées presque comme des mecs, c'est des nanas qui font 3 heures de sport par jour, qui prennent sans doute des stéroïdes, et on ne ressemblera pas à ça. Au contraire, on va juste maigrir, perdre du gras et se sentir beaucoup mieux parce qu'on aura reterritorialisé son corps et on va être équilibré. Je précise une chose, si on respecte le fond nutritionnel là aussi, on va prendre le contrôle de son microbiote et il faut savoir que le neurotransmetteur de l'humeur, la sérotonine, est produite à 80% dans l'intestin. Donc quand vous suivez la méthode au bout de la 3e ou la 4e semaine, vous allez complètement refleurir dans la semaine, au bout de 3 semaines, vous allez vous sentir bien. Vous allez voir tout en rose, alors que quand vous commenciez, vous étiez en pleine dep.
Alors la méthode, c'est dans Because We Care, c'est le nouveau livre d'Erwan Manteur qui vient de paraître aux éditions En Exergue.
Il va y avoir une appli qui va sortir aussi en janvier, qui s'appelle Because We Care et qui permettra de faire du sur-mesure et d'accompagner les gens tout au long de l'année, vraiment en les accompagnant en sur-mesure tous les jours avec eux pour qu'ils atteignent leurs objectifs.
Merci Erwan Manteur.
Merci Frédéric. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, arrive à son terme. Rendez-vous demain matin à 9h pour la suite. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. Je passe le relais à Pierre de Villeneau et aux grandes voix. Quel est le programme, Pierre ?
Bonjour Frédéric. Aujourd'hui, la France arroseur arrosé dans l'affaire de l'Ocean Viking dans le port de Toulon. Donald Trump colère après les midterms américaines. Le Vatican dégaine sur les abus sexuels dans l'église et les Ukrainiens de retour à Kherson.
Je vous souhaite une très bonne émission.
Merci.